Nous sommes en présence de Nicole Corti, bonsoir.
Bonsoir.
Donc vous êtes chef d'orchestre de Spirito, le chœur de 8 personnes qui chantaient ce soir sur les Plutariens.
Voilà, donc Spirito c'est un chœur qui est beaucoup plus nombreux habituellement, mais ce soir c'est 8 chanteuses du chœur Spirito qui sont intervenues, oui.
Guillaume Bayard, vous êtes le metteur en scène de cette pièce un peu folle, complètement déjantée, un opéra space.
Oui, voilà, je dirige la compagnie Groupe Fantomas, oui. Donc je suis venu avec une équipe aussi de techniciens, costumières, accessoiristes, dramaturges à un moment, enfin voilà, il y a toute une bande aussi avec moi.
Et c'est vous qui avez, en quelque sorte, essayé d'organiser ce nombre impressionnant de personnes, parce qu'il y a une vingtaine de personnes. Vous avez, en quelque sorte, posé tout ça pour en faire quelque chose de cohérent.
C'est-à-dire qu'en fait, on a travaillé en se demandant quelles sont les forces en présence dans la pièce, enfin dans le livret de Charles Penquin, qu'on a pas mal remixé aussi. Et donc, il y avait un chanteur, une chanteuse, un chœur, un orchestre, un ordinateur quantique qui chante également, même si c'est un des musiciens de l'orchestre qui trafique sa voix et qui le chante en direct. Mais voilà, il y a un objet qui est une boule rouge qui symbolise l'ordinateur. Parce que c'est quand même voilà, un opéra space, c'est-à-dire qu'on joue avec la série B de science-fiction, en fait. On convoque cet univers-là par presque même des références à des moments. Enfin, ça joue avec cet imaginaire, en tout cas. Et on a rajouté, nous, une entité qui est un panneau dramaturgique vidéo projeté qui guide la narration et qui permet, à travers l'écriture de Penquin, qui n'est pas forcément narrative en fait, qui est plutôt une écriture fragmentaire, bah que le spectateur retrouve une sorte de narration prétexte et qu'il puisse s'y accrocher. Et c'est à la fois une narration à des moments qui guide et qui tire le spectacle et à des moments qui le commente. Et donc ça crée une distance qui peut amener aussi de l'humour, un point de vue, une compréhension, enfin voilà, différentes choses quoi.
Et Guillaume Grenard, qui est un des collaborateurs et musiciens de l'ARFI.
Oui. Donc l'ARFI, c'est l'association à la recherche d'un folklore imaginaire, oui, qui existe depuis 40 ans, et on a eu envie, il y a 4 ans maintenant, de monter un opéra. Et comme il se trouvait qu'il y avait des musiciens parmi nous qui connaissaient Penquin et qui jouaient avec lui, okay, on lui a passé commande d'un livret.
Est-ce qu'il y a des antécédents de ce genre de projet? Ça m'a évoqué Frank Zappa, par exemple, dans La Folie.
Je suis pas spécialiste de Frank Zappa, mais après des opéras un peu déjantés depuis quelques dizaines d'années, il y en a pas mal qui se créent, ouais. Je pense que les premiers qui sont un peu sortis du cadre, c'est ceux du mouvement minimaliste américain, Steve Reich, ouais, John Adams, c'est peut-être eux qui ont ouvert cette brèche-là.
Alors le spectacle, donc, c'est à la fois sur scène, mais aussi dans le public, puisque alors les personnages, les chanteurs viennent dans le public et participent à cette impression que finalement le public est embarqué dans le vaisseau, la marmite intersidérale.
Oui, ben c'est exactement ça. Enfin, on a fait une bête transposition en se disant le vaisseau, c'est le théâtre et le voyage, c'est un voyage vibratoire et musical plutôt qu'un voyage géographique dans l'espace, quoi. Donc dès qu'il y avait une idée narrative, disons qu'on pourrait appliquer à un scénario de film de science-fiction, par exemple, en fait, j'essayais tout le temps d'avoir ça dans un coin de la tête et de me dire bah, comment je le transpose au théâtre, en fait. C'est vraiment construit comme un livre pour enfants. C'est-à-dire que c'est pas du tout un spectacle pour les enfants, mais les livres pour enfants, c'est toujours une image, un tableau, et puis une ou deux phrases ou trois, qui donnent une narration, mais de manière très synthétique. Et on peut à la fois plonger dans les images, la regarder longtemps, ou lire le livre très vite. Enfin, il y a une sorte de liberté du lecteur, quoi.
Il y a d'ailleurs dans je pense, le CD qui va sortir un petit livret BD, c'est ça?
Oui, il est sorti.
Julie Ricosset qui a mis en image l'histoire du livret.
Oui, ouais. D'ailleurs, on était contents parce qu'on s'est rendu compte que c'était hyper limpide, notre histoire. Parce que, voilà, en quelques planches de BD, effectivement, on retrouve la trame.
Et alors, les Plutariens, ce titre, donc il y a aussi une réflexion derrière tout ça.
Les Plutariens, oui, c'est que Penquin, ça part quand même un peu de lui aussi, enfin, qui joue à être un idiot des fois. Et en fait, c'est toujours plus profond que ce que ça a l'air d'être. C'est-à-dire qu'il y a un ton assez comique par moment même, enfin, truculent, marrant, ça distord, c'est très joueur. Et en même temps, il travaille des sortes d'angoisse ou d'inquiétude ou d'idées, enfin, voilà, qui sont assez profondes en fait, des fois, je trouve.
Une réflexion aussi sur la pensée?
Sur la pensée, et puis je pense que dans les Plutériens, il y a vraiment l'idée de comment est-ce qu'on est dans une culture hors sol. Ça parle vraiment de notre société, en fait. Il y a une métaphore de science-fiction, mais finalement, c'est ça qui l'intéresse. Et c'est l'apocalypse possible. Enfin, il y a cette idée-là aussi, même à la fin, là, je veux du chaud, vous voyez ça.
Ça ressemblait un peu à l'enfer, ouais.
Ouais, puis ça joue au réchauffement climatique, enfin, de façon très, très prosaïque. Voilà, c'est travaillé par des motifs assez sombres, même à des moments. Alors que le ton est plutôt goguenard ou léger. Ça peut paraître même gratuit à des moments, le sens apparaît pas tout de suite.
C'est aussi une réflexion avec la machine, le transhumanisme peut-être?
Ouais, mais un peu à l'envers. C'est-à-dire que c'est finalement...
La machine qui veut devenir humaine.
ça serait plutôt ça. C'est une sorte de transhumanisme à l'envers. Ouais. Et elle veut tellement devenir humaine qu'elle finit par se dire, il faut que je fasse l'expérience de la mort, enfin de la finitude. Donc elle fait comme ça tout un tas d'expériences qui tendent à poser la question, c'est quoi d'être un être humain ? Donc elle va avoir aussi une histoire d'amour, enfin il y a plein de rebondissements.
Alors il y a aussi beaucoup de bruitages, pas que de la musique. Et c'est vrai que moi ça m'a pensé un peu à des dessins animés ou des choses comme ça.
Alors en fait, les bruitages sont aussi de la musique. C'est des sons qui ne sont pas organisés dans une gamme, mais nous, on est issus, on a plusieurs inspirations musicales, on ne part pas de rien. Et parmi ces inspirations, il y a la musique improvisée qui développe ce genre de recherche sonore plus que de recherche harmonique. Mais comme on est beaucoup de musiciens, on a beaucoup d'influence, on mélange tout ça. Et je pense que l'opéra, ça montre bien ça. Il y a plusieurs compositeurs, il y a plusieurs pattes, et elles se succèdent. Donc on passe d'une ambiance à une autre qui sont totalement différentes, mais quand même avec une unité.
Donc il y a trois grands personnages. Thérémine, la capitaine, donc, qui est jouée par Marie Nachury. Ouais. Donc elle est à la fois, on pourrait dire, comédienne et chanteuse. Et donc pareil pour Vélimir, le pilote, qui est Antoine Lang. Et donc Kantos, l'ordinateur.
Parlé par un seul des musiciens, qui est Xavier Garcia. Et il emprunte trois corps. Il essaie un corps protéiforme, prendre les formes un peu qu'il veut. Donc il essaie des corps différents.
Et alors cette idée de faire jouer les chanteurs ainsi que les musiciens, c'est une idée de vous, Guillaume Ballard ?
Penquin, ça appelle aussi à des moments à pas être mis en musique tout le temps, par exemple. C'est-à-dire que ça peut aussi se suffire à soi-même. Lui, c'est un performeur, il dit ses textes, bon, des fois avec des musiciens, des fois sans. Mais en tout cas, c'est aussi des poèmes, en fait. Donc à des moments, ça nous a semblé plus judicieux, aussi dans les compositions, de laisser du silence ou plutôt une ambiance sur laquelle la parole vient se poser. Et puis oui, et c'est vrai que Penquin avait écrit une scène de repas. Et puis quand je suis tombé dessus, je me suis dit « Ah mais c'est super, ça fait une pause, on change de ton. » Ça permet de reposer l'écoute aussi. Parce que des fois, c'est très... Au niveau sonore, on en prend quand même bien, quoi. Donc faut aussi ménager l'écoute du spectateur, trouver une sorte de confort. Ah oui, et l'idée, oui, voilà, c'est qu'à des moments, simplement ça, voilà. Ça nous semblait plus judicieux de pas se poser sur de la musique. Et puis à d'autres moments, ça nous semblait judicieux d'être sur de la musique, quoi.
Cette confusion des rôles aussi, c'est une manière de jouer avec les codes de l'opéra. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas le chœur comme un simple chœur d'opéra. Les solistes, Marie, elle est issue du punk. Antoine, il est issu des musiques improvisées. C'est pas ce qu'on appelle des chanteurs à voix. Nous, on n'est pas des instrumentistes d'orchestre. Et on voulait pas faire un opéra avec toutes les règles. Alors on a gardé quelques-unes, parce qu'il faut que ça reste un opéra, mais on a quand même joué avec tous les codes.
Et une dernière question peut-être, il y avait un certain engouement, je pense, à l'initiative de ce projet, le fait de se retrouver comme ça.
Ouais, c'est hyper bien. C'est très rare en fait, c'est des projets qui sont très volumineux, enfin qui convoquent beaucoup de personnes. Enfin moi je suis pas du tout metteur en scène d'opéra. Ouais. D'ailleurs, j'y connais rien, je suis absolument pas cultivé. Oui, ça se voit d'ailleurs. Avec bonheur, j'espère, mais non mais j'en ai une idée, j'en ai vu quelques-uns mais j'ai pas du tout la de ça, ni musical, ni scénique en fait. Et du coup, c'était ultra intriguant de se balancer là-dedans. Et c'était aussi, du point de vue de l'écriture et du livret, une mission impossible. C'est-à-dire que ça me semblait immontable. Quand j'ai lu le truc, je me suis dit, non mais ça n'a ni queue ni tête. Donc j'ai eu tout de suite très envie de le faire. Et voilà, et après, c'est vrai que travailler avec la musique, enfin pour ma part, dans les spectacles que je fais, il y a souvent de la musique. En tout cas, la question musicale, elle est là, même quand il n'y a pas du tout d'instrument. Enfin, de même le jeu, des fois j'essaie d'aborder le théâtre plutôt comme de la danse et de la musique plutôt que comme du théâtre, par exemple. Donc pour moi, j'ai appris beaucoup de choses, en fait.
Pour vous, Nicole Corti, avec le Spirito, qu'est-ce qui vous a emballé dans ce projet ?
C'est le fait que d'abord, on sortait de nos répertoires habituels, donc... L'idée d'aller un peu dans l'inconnu, de travailler aussi avec l'Arfi qu'on connaissait, qui est extrêmement présente musicalement sur le territoire, et puis vraiment d'aller dans une aventure sans en connaître au départ les atouts artistiques. On savait qu'il y aurait un texte de Penquin, mais on ne savait pas du tout comment on allait chanter. Il s'est trouvé effectivement que le chœur a une fonction presque orchestrale par moment, il rejoint l'orchestre par le son, par la vocalité, il colore, et puis d'autres moments, il est acteur, et c'est très intéressant.
Ça se sent beaucoup dans le spectacle, ce plaisir dans le jeu de jouer. On vous remercie tous et toutes, et puis bonne soirée et à bientôt.
Merci à vous.
Merci.